Voilà, il s'appelle donc Paolo Castrillo, il est violoniste et responsable de l'ensemble La Ferté, il est en direct avec nous. Bonjour Paolo.
Bonjour René, donc je suis accompagné de Nicolas Makoviak, qui est le claveciniste de l'ensemble. Bonjour.
Bonjour Nicolas aussi, oui. Donc, un album avec des sonates oubliées, alors de Charles de La Ferté, peut-être qu'on pourrait présenter ce compositeur ?
Oui, alors c'est un compositeur donc méconnu qui a fait des sonates très très belles qu'on a découvertes en 2022, en les déchiffrant. Donc c'était un musicien qui a vécu au tournant du XVIIe et XVIIIe siècle et qui a été au service de Louis XIV et aussi de Louis XV.
Donc c'est un compositeur qui était vraiment vraiment inconnu, c'est-à-dire même dans notre milieu, dans le monde de la musique baroque, les gens le connaissaient pas. C'était et c'est donc une première, c'est donc un enregistrement inédit en France. C'est beau.
Je sais pas si on peut le dire, mais ça ressemble un peu à Lully ou des gens comme ça.
Complètement. Alors là, vous avez visé juste. Même c'est une des premières choses qu'on a entendues quand on a déchiffré sa musique, c'est des réminiscences de son écriture. Et même si on est trois, avec une viole de gambe, un clavecin et un violon, on entend un peu de l'orchestre de Lully derrière dans cette musique.
Donc une musique de cours, une musique à danser aussi, sans doute.
On pense que à cette époque, la danse, elle était omniprésente. Et forcément, elle a inspiré aussi cette musique. Alors, ce n'est pas une musique qui était dansée, donc il n'y a pas de chorégraphie qui nous soit parvenue avec cette musique-là. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les gens savaient ce que c'était qu'un menuet, un bourrée, une gavotte, et encore plus les musiciens. Et du coup, La Ferté, dans son écriture, il fait souvent des clins d'œil à toutes ces danses.
Donc cet album que vous avez sorti, c'est pratiquement une première parution en public d'un album autour de la musique de Charles de La Ferté.
Oui, en France, c'est vraiment le tout premier enregistrement.
Et qu'est-ce qui a fait qu'il n'ait pas été connu ? Bon, c'est vrai qu'il y a eu d'autres personnes, d'autres musiciens, compositeurs qui ont été célèbres et peut-être qui ont pris le pas, mais pourquoi est-il discret ?
J'ai une hypothèse, c'est peut-être qu'on a retrouvé un seul recueil, alors que les autres compositeurs qui ont un nom qui aujourd'hui est plus connu, on a plus de musique et lui il a un seul recueil qui a été édité, donc on a joué cette intégrale, mais c'est peut-être une explication parmi d'autres. Et puis à son époque, lui il était musicien, donc dans musicien d'orchestre, mais il a peut-être pas eu de grandes fonctions ou des choses comme ça.
Oui, c'est vrai qu'il s'est pas retrouvé à la tête. À la direction d'un ensemble ou en tant que comment ça s'appelle, roi des violons, c'était l'un des titres qu'on pouvait avoir à cette époque-là. Lui, il a toujours occupé une fonction de musicien d'orchestre, alors l'orchestre du roi quand même, mais c'est vrai que c'est pas comme Robel qui était un peu directeur à l'opéra Leclerc, Sénayé, voilà, d'autres musiciens qui ont occupé, c'est vrai, comme disait Nico, d'autres fonctions.
Donc cette musique-là, elle est très très classique dans sa facture, hein, on va dire, on a l'impression presque que c'est un modèle d'écriture.
Alors, il y a que ça, c'est vrai, mais en même temps, on voit à travers les sonates que La Ferté essaye de se détacher justement des codes, on va dire, et qu'il explore un peu tout l'éventail de formes possibles qu'on retrouve à son époque. Donc, par exemple, on a des sonates où on a l'impression que tout s'enchaîne d'un seul coup, comme ça se faisait très souvent à la fin du XVIIe. Et on a d'autres sonates où c'est vraiment une suite de danse, avec une allemande qui introduit, et puis des danses après. Et parfois, il a des sonates qui ont rien à voir ni avec cette forme, un seul mouvement, ni avec la suite de danse. Où là, voilà, il laisse libre cours à son imagination.
C'est vrai qu'à l'époque, il y avait ce qui était un peu standardisé, c'était la sonate, donc à quatre mouvements qui venaient d'Italie, et la suite de danse, donc avec un ordre qui a commencé à être vraiment défini avec l'allemande en premier. ainsi de suite. Et lui, il est pas du tout dans tout ça. Et à chaque sonate, il y a une forme différente. Et c'est un laboratoire. Chaque fois, il s'amuse avec une forme différente.
Est-ce qu'un enchaînement tel qu'il les faisait, c'est un petit peu comme un DJ qui compile des éléments?
Oui, parce que l'idée, c'est aussi de garder le public éveillé, de le surprendre. Voilà. Ouais. Donc c'est tout à fait ça. Et quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que alors là on n'est que deux avec Nicolas, mais on a une troisième, donc une violiste, et qui de temps en temps a des parties indépendantes, comme ça se faisait beaucoup d'ailleurs en musique française. Donc elle est là dans la dernière sonate, une partie qui lui a été écrite carrément pour la basse. Donc elle va se détacher du continuo, parce que sinon, dans les autres sonates, Nicolas et Manon, la main gauche de Nicolas et Manon jouent la même partie. Mm-hmm. Mais dans la dernière sonate, y a une troisième voix qui surgit. Et nous, on a pris ça comme un point de départ pour explorer aussi le fait de rajouter une autre voix. Et c'est ce qu'on a fait dans l'une des allemandes. Et cette pratique donc de rajouter une contrepartie était très courante, et on la retrouve aussi chez Jacquet de la Guerre, qui est un peu plus connu quand même que La Ferté, chez Robel, Marchand, et plus tard, on aura ça aussi chez Leclerc.
Donc cet ensemble La Ferté, en fait, vous êtes les héritiers de Charles de La Ferté ?
Oh là là ! Je sais pas si on est les héritiers, mais en tout cas, c'est sa musique qui nous a réunis. C'est en quelque sorte grâce à lui que notre ensemble aussi a vu le jour. Donc voilà.
Et donc votre disque, vous avez publié déjà, je pense qu'il est sorti en novembre, c'est ça ?
Oui, exactement. Je n'ai pas appris.
Et quel chemin suit-il actuellement ?
Oui, il rencontre un petit succès, notamment sur France Musique. On passe souvent sur France Musique, donc on est très contents. Sinon on commence de notre côté à le vendre dans des concerts, et puis il commence à être reçu par des critiques, donc des gens qui s'y connaissent en musique baroque, et on a des retours très positifs, donc on est content.
Oui. Notre première critique, c'était une critique américaine. On s'y attendait pas du tout, et il y a quelqu'un qui à l'autre bout de l'océan a écouté sur Qobuz le disque, et il nous a fait un retour qui était vraiment très positif. Et puis en France, on commence à avoir aussi quelques articles chez Res Musica, par exemple, Baroquiade, voilà, des magazines spécialisés. Donc on est très contents.
Alors moi, je suis plutôt un fan de l'atelier lyrique de Tourcoing, de la musique baroque, qui a été longtemps jouée avec l'atelier lyrique et Jean-Claude Malgoire. Hein. Donc je suis bien retrouvé dans ce que j'ai entendu de vous.
Hein. Ah. Ben oui, c'est sûr que à Tourcoing, il y a toute une, maintenant on peut dire ça, une tradition du renouveau déjà de la musique baroque. Oui, c'est clair.
Et surtout l'utilisation d'instruments d'époque. Je ne sais pas si vous avez réussi cette prouesse.
Oui. Alors nous, Manon, donc la violiste et moi, on joue sur des cordes en boyau. Et tous les trois, on a des instruments qui sont soit des copies, soit des modèles qui s'inspirent donc des instruments du début du XVIIIe siècle ou la fin du XVIIe.
C'est assez précis. Par exemple, non seulement moi je vais jouer sur un clavecin, donc on se remet à jouer du clavecin, mais en plus spécifiquement sur un clavecin français, donc en copiant un modèle de clavecin français, mais encore plus spécifiquement sur un modèle de clavecin français début XVIIIe. On va jusqu'à là. Paolo, donc, sur un violon baroque français. Il joue avec un archer.
Italien.
Italien, pardon. Il joue avec un archer, un petit archer. Donc, c'est plutôt un archer pour cette musique.
Oui.
Et en plus, il joue en position basse. C'est-à-dire, quand vous voyez les violonistes modernes, ils ont une mentonnière et ils calent leur violon entre leur menton et leur épaule.
Oui.
Et toi, tu tiens ton violon beaucoup plus bas au niveau du bras, entre le bras et l'épaule.
Oui, tout à fait. Oui, parce que c'était aussi, l'idée de ce disque, c'est d'explorer cette technique qui s'appelle la tenue basse, parce que ça donne une sonorité qui est tout à fait particulière, qui va aussi de pair avec le fait d'accompagner la danse. Et il y a du coup un côté un peu plus incisif, plus percutant. voilà, qu'on aimait bien.
Et pour les archers, on peut encore changer facilement les cordes ou ça devient compliqué, des cordes naturelles?
Pour la mèche de l'archer, vous voulez dire? Non.
Pour mettre les fibres de l'archer.
Ah, pour les cordes en boyau.
En boyau, ouais. Ça existe encore?
Oui, bien sûr. En fait, depuis qu'il y a tout ce mouvement du renouveau de la musique ancienne, on s'est mis à retrouver tous ces savoir-faire qui en fait sont restés quand même jusqu'à assez tard
En fait, je crois que le métal sur les cordes, ça vient tard en fait.
Je crois que c'est après la Seconde Guerre mondiale.
Même en fait, les compositeurs du début du 20e, ils ont été joués sur des instruments.
Oui, tout à fait. Alors, ils n'avaient pas boyau sur les quatre cordes pour les violons, mais même nos profs, je pense à mon prof qui doit avoir actuellement, je sais pas, une soixantaine, bon, je vais pas dévoiler son âge, mais je pense que lui, quand il a commencé enfant, il avait des cordes en boyau. Donc là, à l'heure actuelle, il y a tout un tas d'artisans qui sont remis à étudier des savoir-faire qui avaient été un petit peu perdus, oubliés. Et maintenant, on a plein de fabricants de cordes qui font un travail extraordinaire. Pareil pour les facteurs de clavecin, les luthiers qui font des violons, des viols historiques. Voilà, il y a tous ces métiers qui renaissent et il y a vraiment tout un engouement. Voilà.
Donc, quand vous faites des concerts, c'est compliqué de vous accorder, de laisser les instruments à température et les régler?
Alors, le clavecin, c'est un instrument qui s'accorde assez régulièrement, contrairement au piano, qui peut avoir un accord, tous les ans. Donc, le clavecin, il va falloir que je l'accorde, si je le laisse sur le même lieu, au moins une fois par semaine, et à chaque fois qu'il change de lieu, en fonction de l'hydrométrie et de la température, il va falloir que je l'accorde. Et ça prend un petit moment. Et les cordes en boyau, je pense que c'est encore plus particulier.
Oui, c'est-à-dire que c'est du boyau, donc c'est une matière qui est assez capricieuse, oui, et sensible aussi aux changements de température, d'humidité. Le petit inconvénient, oui, c'est vrai qu'il faut le raccorder souvent.
D'accord, plus souvent.
C'est ça. Mais l'avantage, c'est que le boyau a une résonance qui est beaucoup plus riche.
Ouais, moi, ça donne un son particulier quand le boyau.
Ouais.
Voilà, donc sur scène, vous êtes trois, c'est ça?
Oui, exactement.
Et donc, votre trio se connaît depuis longtemps?
On se connaît depuis longtemps. Je pense qu'on a commencé à jouer en 2021, peut-être.
Oui.
Début, le trio, c'était un duo.
C'est ça, ouais, on était Paul et moi.
Voilà.
Et on avait même, on avait déjà une sonate de La Ferté dans notre programme.
Oui.
Ouais. On avait chiffré les suivantes avec Manon.
Oui. Et oui.
Voilà, donc cet album, on l'entend actuellement. Il est disponible un peu partout, comme on se le procure?
Oui, alors vous le trouvez sur toutes les plateformes, donc Buzz, Deezer, Spotify et compagnie, et aussi en physique, donc à la Fnac.
Sur Internet, en livraison. Et pour les amateurs, on a un très très beau vinyle, un double vinyle, avec une belle qualité, un beau livret aussi sur le site de l'ensemble.
Ouais. Ce vendredi, 13 février à 20h, si jamais des auditeurs se trouvaient à Paris, on fait notre concert de sortie officiel à la salle Cortot.
Salle Cortot, ouais. Et donc, est-ce qu'un jour vous viendrez dans notre région Hauts-de-France?
Ah ben oui, ce serait avec grand plaisir.
Ouais. Bah, ça serait vraiment bien, ouais.
On a enregistré, on était logé à côté de Valenciennes et on a enregistré en Belgique à côté à Mons.
Ah, d'accord, oui.
Pour faire un disque fait dans le Nord.
Oui, et on était vraiment...
Super bien accueilli.
Oui, et on a eu un soutien incroyable de la part d'Harmonia Sacra,
oui,
qui est une association donc, musicale qui est à Valenciennes.
Valenciennes, Yannick Lemeur, merci.
Voilà, donc c'est vraiment grâce à eux aussi qu'on a pu concrétiser le projet. On a été accueillis par des bénévoles incroyables.
Merci Jean-Luc.
Donc vous, on peut imaginer un jour que vous séduirez alors l'atelier lyrique de Tourcoing ou pourquoi pas l'opéra de Lille aussi.
Ah ben oui, nous on est prêts à séduire.
En tout cas, je vous remercie pour cette présentation. Je souhaite bon vent à la fois à ce disque et puis à votre ensemble. Hein. Et donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos venues en région. On sera très heureux de vous accueillir une nouvelle fois.
Merci beaucoup. Merci.
Très belle journée.
Merci. Au revoir. Au revoir.